L'Église nous dit-elle toujours la vérité? Le titre de cet enseignement vous aura peut-être un peu étonné. En effet, en tant qu'elle est un mystère divin qui nous transcende, on l'a bien dit, l'Église est certainement mater et magistra, c'est-à-dire qu'elle est le moyen voulu par Dieu pour nous enseigner la vérité. Mais, on l'a dit aussi, l'Église est également composée d'hommes pécheurs, nous autres chrétiens, qui réalisons parfois bien imparfaitement la mission qui nous a été confiée. D'où cette question, de la plus haute importance, l'Église, mystère divin, composé de pécheurs, nous dit-elle toujours la vérité? À cette première question s'ajoute une seconde. Comment nous, chrétiens, devons-nous vivre cette confiance dans l'Église, qui est à la fois un mystère divin, mais aussi une réalité humaine? Ou plus précisément, comment devons-nous adhérer aux enseignements du magistère, qui très manifestement porte à la fois la marque de Dieu, qui ne peut se tromper ni nous tromper, mais aussi la marque des hommes, qui quant à eux sont faillibles? Quelle attitude devons-nous adopter? Devons-nous faire une confiance aveugle à tout ce que l'Église déclare en tout temps et en toutes circonstances? Ou au contraire, pouvons-nous adhérer aux enseignements du magistère en fonction de notre seule réflexion personnelle? C'est à cet ensemble de questions que nous allons tenter de répondre. Pour cela, on rappellera tout d'abord ce qu'est le magistère de l'Église. Ensuite, on montrera que ce magistère de l'Église s'exprime à travers des déclarations qui possèdent une autorité différente. Enfin, nous réfléchirons sur la manière dont nous, chrétiens, devons recevoir l'enseignement de l'Église en tenant compte des différents degrés d'autorité du magistère. Alors, en premier lieu, arrêtons-nous sur le sens de l'expression « magistère », expression si importante pour notre sujet. Que veut dire le mot « magistère » ? Avant son ascension au ciel, le Seigneur Jésus a confié à ses apôtres plusieurs charges ou fonctions. La fonction magistérielle est l'une de ces charges. Elle consiste à conserver, exposer, annoncer la parole de Dieu. Conserver, exposer et annoncer la parole de Dieu. Ce service, le Seigneur l'a confié à ses apôtres et à leurs successeurs. Et ce service est aujourd'hui assuré par le pape et les évêques qui sont unis à lui. La constitution conciliaire Dei Verbum le rappelle bien. Elle dit « Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. » Les apôtres et leurs successeurs exercent donc aujourd'hui cette charge d'enseignement. Et on appelle magistère le fruit de cet enseignement des successeurs des apôtres, lorsque celui-ci est donné au nom de l'Église. Le magistère, c'est l'enseignement du pape et des évêques unis à lui lorsqu'ils parlent au nom de Dieu. Ce service du magistère est très important. Il a pour fin immédiate de protéger le peuple de Dieu des déviations et des défaillances, ainsi que de lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. Dit plus simplement, sans le magistère de l'Église, nous ne pouvons connaître la vraie foi et la professer. Nul ne saurait donc prétendre avoir une foi authentique s'il s'opposait absolument au magistère de l'Église. Voilà pour la définition du mot « magistère ». Voyons maintenant que cette mission reçue par le pape et les évêques unis à lui ne s'exerce pas toujours de la même façon. En effet, l'Église n'entend pas donner à chacune de ses déclarations le même poids doctrinal. Ses enseignements n'ont pas tous la même autorité. Le Concile Vatican II, puis plusieurs textes émanant du siège apostolique ou de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ont clairement rappelé qu'il existe différents degrés d'autorité dans l'exercice du magistère suprême lorsque celui-ci est exercé par le pape seul ou par le collège des évêques unis à lui. Cette différence d'autorité entre les déclarations du magistère s'explique par le fait que l'Église progresse vers la vérité tout entière. Ce mouvement de progression, à travers les siècles, implique que les chrétiens ne sont illuminés par l'Esprit Saint que d'une manière progressive. Les déclarations du magistère obéissent elles aussi à cette loi de progression. Certaines d'entre elles sont manifestement imparfaites et donneront lieu à d'autres déclarations qui viendront les perfectionner. Et tout fidèle sera donc tenu d'adhérer au magistère de la manière qu'il convient, c'est-à-dire en gardant à l'esprit que l'Église est en marche vers la vérité tout entière. En d'autres termes, recevoir les textes du magistère dans l'esprit de l'Église implique de les accueillir avec le degré d'autorité qui est le leur. Ainsi, la doctrine des degrés d'autorité est très importante puisqu'elle permet justement la communion des fidèles avec le pape et le siège apostolique et les évêques unis à lui, d'une manière ajustée à la nature de leurs propos, sans les surévaluer, premier risque, ni sans les sous-évaluer, deuxième risque. Cette doctrine des degrés d'autorité du magistère nous permet de distinguer légitimement dans les déclarations de l'Église ce qui représente une doctrine définitive de ce qui donnera lieu à des élaborations ultérieures. Alors, on va présenter maintenant ces différents degrés d'autorité du magistère. Et pour cela, nous allons utiliser une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a été publiée en 1998. Une note qui distingue quatre degrés d'engagement de l'autorité du magistère. Il existe quatre degrés d'autorité du magistère. Premier degré, on discerne tout d'abord un suprême degré d'engagement de l'autorité du magistère, lorsque celui-ci professe les doctrines de foi divine et catholique que l'Église propose comme divinement et formellement révélées et comme telles irréformables. Par exemple, les vérités du credo ou encore les dogmes de l'Église sur le Christ ou sur la Sainte Vierge font partie de ces vérités infaillibles qui réclament l'adhésion de notre foi. Les nier, ces vérités, nous mettraient en situation d'hérésie. Vient ensuite une seconde catégorie de vérités auxquelles le fidèle est également tenu d'accorder son assentiment ferme et définitif. Cet assentiment, ajoute la Congrégation, est fondé sur la foi dans l'assistance que l'Esprit-Saint prête au magistère de l'Église et sur la doctrine catholique de l'infaillibilité du magistère dans ces domaines. Alors, ces énoncés de la deuxième catégorie sont de nature dogmatique ou morale. Ils sont nécessaires pour garder et exposer fidèlement le dépôt de la foi, même si, et c'est la nuance par rapport au premier degré, ces vérités n'ont pas été proposées par le magistère comme formellement révélées. Donnons quelques exemples de ces vérités qui sont définitives, bien que n'ayant pas été formulées comme explicitement révélées par Dieu. Par exemple, la question du sacerdoce. Le sacerdoce ne peut pas être conféré à des femmes, mais seulement à des hommes. Ça n'a pas été explicitement révélé. Et pourtant, l'Église le tient d'une manière infaillible et ferme. Cette vérité, a en effet déclaré le pape, est définitive, le pape Jean-Paul II, est définitive. L'Église pourra mieux l'expliquer dans les siècles à venir, mais elle ne pourra pas la contredire. Pensons, autre exemple, à l'illicéité de l'euthanasie ou de la prostitution, qui sont elles aussi des vérités irréformables, bien que non formellement révélées par Dieu. Donc, on voit bien dans ce deuxième degré qu'il s'agit de vérités très fermes, infaillibles, mais contrairement aux vérités du premier degré, elles n'ont pas été explicitement révélées par Dieu. Le troisième degré d'autorité concerne toutes les doctrines soutenues par le magistère qu'on appelle authentiques ordinaires. Comme l'affirme la Congrégation, il s'agit là des enseignements proposés par le magistère authentique ordinaire sur un mode non définitif qui requiert des degrés d'adhésion divers selon l'esprit et la volonté manifestés spécialement, soit dans la nature des documents, soit dans le fait de proposer fréquemment la même doctrine, soit dans la teneur de l'expression employée. On reviendra sur cette expression un peu dense. Alors, donnons quelques exemples de ces vérités du troisième degré. En fait, les vérités correspondant à ce troisième degré sont innombrables, car dès lors que le pape entend enseigner, et ce même sans engager avec force son autorité, ces propos appartiennent à ce que nous venons d'appeler le magistère authentique ordinaire. Comme nous allons le montrer plus tard, les déclarations du magistère ordinaire peuvent avoir un poids doctrinal très différent selon les circonstances, ou plus précisément encore, selon la manière dont elles sont exprimées. Très important. Enfin, quatrième degré, il peut arriver que de propos délibérés, ou à tout le moins selon une claire évidence, le pape émette un conseil ou un avis, sans néanmoins prétendre engager son autorité magistérielle. Pour ne prendre qu'un exemple, l'attachement de notre pape François à telle équipe de football n'engage pas l'enseignement de l'Église. De même, lorsqu'il s'exprime librement sur ses opinions artistiques ou politiques. Comme tout catholique, le pape a lui aussi le droit d'exprimer ses opinions personnelles, et ce sans prétendre engager son autorité magistérielle. Dans ce dernier cas, une réelle liberté d'appréciation est laissée aux fidèles, encore qu'ils soient toujours tenus au respect et à la bienveillance envers le pape. Ce point est devenu particulièrement important. En effet, depuis Saint Jean-Paul II, les papes ont pris l'habitude de s'exprimer couramment dans les médias. Dès lors, il importe de rappeler qu'il existe une frontière entre ce qui ressort de leurs opinions personnelles et ce qui appartient à leur enseignement proprement dit. Faute de percevoir cette frontière entre opinion et magistère, certains fidèles sont conduits à absolutiser certaines opinions du pape ou, à contrario, à éprouver des troubles qui dégénèrent parfois en une attitude d'hostilité systématique vis-à-vis de sa personne ou de son magistère. Alors venons-en maintenant à notre troisième partie, qui répondra à une question que nous nous posons tous. Quelle attitude devons-nous adopter vis-à-vis du magistère ? On vient de dire ce qu'est le magistère, on vient d'énoncer ses différents degrés, mais comment nous devons-nous adhérer au magistère ? Comment devons-nous accueillir la parole des papes ? Alors la réponse à cette question demande de revenir sur ce que nous venons de dire sur les différents degrés, car notre réponse sera proportionnée à la nature de ce qui nous est enseigné. Alors, pour les vérités qui bénéficient de ce qu'on a appelé les deux premiers degrés d'autorité du magistère, à ces doctrines, nous devons l'assentiment ferme et définitif de notre foi. Autrement dit, nous avons l'obligation de les croire. L'obéissance de la foi. À l'opposé, au sujet des déclarations des papes qui ne sont que des opinions, le fidèle n'est pas nécessairement tenu d'y adhérer. C'est par exemple le cas lorsqu'un pape publie un livre de théologie ou encore de libres entretiens. Et c'est ainsi que Benoît XVI écrivait dans la préface du premier opus de sa trilogie de Jésus de Nazareth, je le cite, « Il n'est certainement pas nécessaire que je précise que ce livre n'est en aucune manière un acte du magistère, mais qu'il n'est que l'expression de ma recherche personnelle. Chacun, disait Benoît XVI, est donc libre de me contredire. » Nous pouvons ainsi avoir une opinion différente de celle des papes sur bien des sujets contingents, si tant est que nous tombions dans la critique systématique et malveillante de leurs opinions, ou de leur personne. Alors notre difficulté, vous le comprenez bien, elle se concentre sur toutes ces déclarations qui appartiennent à ce qu'on a appelé le magistère authentique ordinaire, soit le troisième degré d'autorité du magistère. La plupart des déclarations des papes entrent dans cette catégorie. Comment devons-nous les recevoir dans un esprit authentiquement ecclésial ? Le Concile Vatican II a traité la question au numéro 25 de la constitution Lumen Gentium. Il y est en effet affirmé que le magistère ordinaire appelle de la part du fidèle ce qu'il appelle l'enseignement religieux de la volonté et de l'intelligence. Alors en latin, religiosum voluntatis et intellectus obsequium. Alors je cite le texte. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Alors on va essayer d'expliquer cette citation. Toute la doctrine de l'Église sur notre sujet se concentre dans l'expression un peu mystérieuse d'assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence. Que signifie cette expression ? Cette expression désigne l'attitude du fidèle qui adhère à l'enseignement du magistère. Mais qui adhère à l'enseignement du magistère, qui s'exprime dans ce cas-là, non de manière infaillible, et non simplement comme une opinion qui pourrait être reçu ou pas. Le fidèle est tenu face au magistère authentique ordinaire d'adhérer de tout son cœur à ce qui est dit, mais selon la manière dont cela est dit. Et cela est très important. Pourquoi ? Parce que selon la manière dont cela est dit, le magistère nous dit la manière dont nous devons le recevoir. Il arrive en effet que certaines fois, le magistère authentique ordinaire énonce une vérité qui se présente comme traditionnelle, c'est-à-dire ayant été répétée à travers les siècles, et comme très importante. Et dans ce cas-là, selon la manière dont le magistère s'exprime, on comprend que notre adhésion, même si elle n'est pas une adhésion de foi, doit être une adhésion particulièrement ferme. Cela, nous devons le tenir. Mais il arrive dans certains cas que le magistère authentique ordinaire énonce pour la première fois quelque chose. Et l'énonce en plus d'une manière qui se présente soit comme une hypothèse, soit comme un conseil, soit comme, mettons, une mesure disciplinaire. Dans ces derniers cas, on comprend bien, selon la manière dont s'exprime le magistère, qu'il veut nourrir notre réflexion, mais qu'il n'est pas encore définitif, et qu'il pourra être du coup révisé. Bref, le poids doctrinal des différents enseignements du magistère ordinaire et l'assentiment qu'il requiert de notre part doivent être évalués en fonction de la manière dont cela est exprimé, de leur degré d'indépendance par rapport à des éléments contingents et variables, et de la fréquence avec laquelle ces enseignements sont rappelés. La manière dont le magistère s'exprime nous révèle donc la manière dont nous devons recevoir ce qu'il dit. L'assentiment religieux que nous devons au magistère authentique ne nous dispense pas donc de réfléchir à son sujet, bien au contraire. L'Église nous demande de recevoir son enseignement de tout notre cœur, c'est-à-dire en sollicitant le plein exercice de toutes nos facultés, et donc celui de notre intelligence. Autrement dit, l'accueil du magistère, surtout dans son troisième degré, est une sorte d'exercice spirituel. Il implique en effet que nous formions notre intelligence et que nous développions nos vertus. Notre relation vis-à-vis du magistère est bien différente de celle de l'homme du rang vis-à-vis de son caporal. La dignité du chrétien consiste à mettre en œuvre toutes les dimensions de son être, et donc toute son intelligence, dans l'accueil des enseignements que le magistère lui donne au nom du Seigneur. Alors concluons. La réponse à notre question initiale, « L'Église nous dit-elle toujours la vérité ?», nous a conduit à établir certaines distinctions que certains pourront trouver un peu alambiquées. En fait, nous l'avons compris, ces distinctions entre les différents degrés d'autorité du magistère sont très importantes, car c'est à leur lumière que nous comprenons comment nous devons recevoir les enseignements de l'Église. En réalité, faute d'établir ces distinctions entre les degrés d'autorité du magistère, le risque est grand, soit dans un sens d'absolutiser toutes les déclarations du magistère, soit, dans un autre sens, de les relativiser d'une façon excessive. Le juste milieu à tenir, et ce juste milieu que nous recommande l'Église, est d'assentir docilement à ce qu'enseigne le magistère en tenant compte de sa nature et de la manière dont il s'exprime. Bref, l'Église nous dit certainement la vérité, mais sous un mode humain et donc progressif. Oublier cela, ce serait oublier que Dieu a voulu prendre le risque de nous faire collaborer, nous, pécheurs, membres de l'Église, à l'œuvre du salut. Le Seigneur se sert d'instruments faillibles pour nous donner sa vérité. C'était là un risque de sa part. C'était surtout un magnifique témoignage de sa confiance et de son amour à notre égard.